Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier aux personnes qui viennent pour la première fois. Vraiment, nous voulons vous accueillir, que vous puissiez vous sentir accueillis au milieu de nous. J'espère que chacun d'entre nous a pu faire une pause cet été d'une manière ou d'une autre. Demain, nous serons en septembre. Ce sera la rentrée pour les enfants en particulier, mais aussi pour les parents qui les accompagnent, un temps où beaucoup de choses reprennent, en tout cas, y compris dans l'Église. Initialement, je devais prêcher ce matin sur la lettre aux Romains, mais après une nuit mouvementée, la nuit même de samedi à dimanche, après une nuit mouvementée et un passage aux urgences, c'est vers un autre texte que je vous propose de nous tourner. Vous comprendrez aussi d'où viennent mes signes de fatigue. Et j'aurai l'occasion un peu plus tard, durant les annonces, d'expliquer ma situation. Mais Dieu soit loué, je suis là devant vous ce matin. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour ça, pour sa grâce. Dans la Bible, Dieu se présente de plusieurs manières différentes. Dès la Genèse, Dieu dit à Abraham qu'il est son bouclier. Dans les psaumes, nous avons aussi cette image du bouclier, mais nous avons aussi d'autres images comme celle du berger. Dieu se présente comme étant le berger, notamment du roi David. Dieu se désigne également comme une source d'eau vive. C'est ce que nous lisons chez Jérémie, chapitre 2, verset 13. Une source d'eau vive que malheureusement son peuple a délaissée et abandonnée. Autre image étonnante. Quand Jésus fait des reproches à la ville de Jérusalem, il lui dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Luc chapitre 13, verset 34. Dieu se présente aussi comme une poule. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça que Dieu se présente, mais une poule protectrice qui veut attirer ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur une autre image que nous trouvons dans le psaume 46, l'image du refuge. Dieu est un refuge, oui. Dieu est présenté comme un abri ou encore comme une forteresse. Si maintenant nous regardons un peu en arrière, depuis le début de l'année 2025, est-ce que nous dirions que Dieu a été un refuge pour nous? Est-ce que nous pourrions dire cela de Dieu, que Dieu, effectivement, depuis le début de cette année, si on ne remonte pas plus loin, mais déjà depuis le début de cette année, a été un refuge pour moi. Est-ce qu'on peut dire cela? Je vous invite à pouvoir prendre avec moi vos Bibles et à pouvoir lire ce texte ensemble. Donc le psaume 46. Donc pour ceux qui cherchent dans leur Bible, c'est à la page 383. Écoutons la parole de Dieu. Au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent. Écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. pause. Le psaume 46 fait partie d'un groupement de textes, des chapitres 42 à 49, composés par les mêmes auteurs. Ces auteurs, ce sont les descendants de Coré, de la tribu de Lévi. Ce sont donc des Lévites, et plus précisément des musiciens, des chanteurs qui officiaient dans le sanctuaire. Donc c'est ce groupe, si vous voulez, c'était un peu le groupe de louanges de l'époque. Et donc ils ont composé ce psaume 46. Effectivement, le psaume de ce matin est un chant. Vous avez l'intitulé au verset 1. Un chant qui s'écoute. Un chant qui oriente notre regard vers Dieu, en particulier quand survient la détresse. Quand le monde qui nous environne est sans dessus-dessous. Ce psaume est dans la parole de Dieu pour encourager le peuple de Dieu à se confier en Dieu. Si nous avons ce psaume dans la Bible, il est là pour encourager le peuple de Dieu à se confier en lui. Dieu est son refuge, et le refuge du peuple de Dieu, et la forteresse du peuple de Dieu. Et il est aussi notre refuge, notre forteresse, si nous appartenons à Christ. C'est la mélodie que nous entendons tout au long de ce chant, au début, à peu près au milieu et à la fin. Dieu est une forteresse, un refuge, un abri. Et ce psaume nous encourage précisément à deux réactions. La première, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur puisque Dieu est un refuge. Et la deuxième réaction, reconnaissons qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi il est un refuge. Parce qu'il est Dieu. Commençons par la première réaction, n'ayons pas peur. Quand un danger vous menace, quel qu'il soit, quel est pour vous le lieu le plus sûr ? Là où vous vous sentez le plus en sécurité. Est-ce que c'est chez vous ? Certains me disent oui. Est-ce que c'est votre chambre ? Est-ce que c'est une pièce que vous pouvez verrouiller de l'intérieur ? Pensez juste un instant à l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité, ici-bas. S'il y a un danger, où est-ce que vous vous réfugiez ? Quel est l'endroit le plus sûr pour vous ? Pour les auteurs de ce psaume, c'est d'abord et avant tout Dieu qui est désigné comme ce refuge si rassurant. Pour le peuple de Dieu, le verset 2 est la raison pour laquelle il n'a pas peur. Je relis encore ce verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Un verset que nous pouvons mémoriser pour la semaine qui est devant nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Nous ne savons pas grand-chose sur les circonstances qui ont conduit à la rédaction de ce texte. Le peuple avait peut-être fait l'expérience de la délivrance de Dieu. En tout cas, le peuple d'Israël pouvait affirmer avec certitude, Dieu est pour nous un refuge. Et pourquoi il pouvait l'affirmer ? À cause de son alliance avec Dieu, à cause de sa relation avec Dieu. Et dans le cadre de cette alliance conclue avec Dieu, le peuple pouvait bénéficier de sa protection. Bien sûr, dans la mesure où le peuple allait rester loyal envers Dieu, ne pas l'abandonner, ne pas se tourner vers d'autres dieux. Et à l'époque, par un traité d'alliance, le suzerain s'engageait à protéger le peuple vassal en cas d'attaque extérieure. Et l'alliance de Dieu, ressemble à un traité d'alliance de l'époque, où le suzerain s'engage à protéger le peuple vassal. Donc face au danger, y compris quand la nature se déchaînait, le peuple d'Israël, à ce moment-là, pouvait chercher secours auprès du Dieu, auprès de qui ? Il se réfugiait, avec qui il avait fait alliance. Telle est la relation dont bénéficiait le peuple d'Israël. Pensons maintenant à notre situation. Si nous sommes unis à Christ, nous sommes aussi dans une relation d'alliance avec Dieu. Sur la base de cette alliance, scellé par la mort de Jésus, nous pouvons aussi compter sur Dieu, qui est pour nous un secours toujours présent dans la détresse. Nous pouvons nous approprier ces mêmes mots. Quelle parole rassurante! Et si en ce moment une détresse vous accable, vous avez en réalité quelqu'un vers qui vous tournez. Pour les auteurs du psaume, c'est Dieu, le refuge le plus sûr et le secours le plus fiable. Vous ne vous sentirez jamais plus en sécurité ailleurs qu'en Dieu. Même votre chambre ne fera pas l'affaire. Vous ne vous sentirez jamais plus en sécurité ailleurs qu'en Dieu. Et j'en veux pour preuve ce que nous lisons dans la suite de ce psaume. Nous lisons au verset 3, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Si Dieu est pour nous un refuge et un appui, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Cette affirmation n'est-elle pas incroyable ? Voilà ce que chantait le peuple de Dieu plein d'assurance. « Dieu est pour nous un refuge, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Si vous avez trouvé le lieu le plus sûr pour vous face à tous les dangers, alors vous n'avez aucune crainte à avoir parce que vous avez trouvé ce lieu. Dieu est pour nous un refuge, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous n'avons pas peur, même si le monde autour de nous s'écroule. Quelle assurance, quelle stabilité dans cette affirmation, alors même que tout tremble dans la création, comme vous le voyez au verset 3 et 4. La terre, les montagnes, la mer, tout est ébranlé. Mais nous sommes sans crainte. Et je ne peux m'empêcher, en lisant ces versets, de penser à toutes les intempéries, à toutes les catastrophes naturelles que nous entendons aux infos. Inondations, feux de forêt, ouragans et bien d'autres. Des phénomènes qui s'amplifient, qui se multiplient d'après les spécialistes. Et dans ces conditions, l'être humain est si vulnérable. Dans ces conditions, la maison qui nous servait d'abri peut finalement être si fragile. Comment le croyant du XXIe siècle peut-il rester calme avec le déchaînement des éléments naturels? Comment peut-il rester calme? Eh bien, c'est toujours la même réponse. Parce que Dieu est pour lui un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Nous ne pourrons pas échapper à la crise écologique, ni au dérèglement climatique, ni aux intempéries à venir. Mais nous avons en Dieu un refuge le plus sûr. Dieu n'empêche pas nécessairement la catastrophe, mais il est présent, prêt à nous rassurer pour que nous n'ayons pas peur. En lisant ces versets, j'ai aussi pensé à Jésus et à ses disciples, qui étaient confrontés à une violente tempête en mer. Et c'est un moment qui est tellement révélateur. Parce que même des navigateurs expérimentés, comme l'étaient certains disciples, eh bien, pouvaient prendre peur quand le vent et les vagues menaçaient l'embarcation. Jésus, lui, à ce moment-là, dans ce moment que je vous raconte, est en train de dormir. Et les disciples le réveillent sur un ton de reproche. « Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Marc chapitre 4, verset 38. Jésus donc se réveille, menace le vent et la mer, et tout redevient calme. Et Jésus leur demande alors, au verset 40, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Vous l'avez remarqué aussi dans cet épisode de la tempête, Dieu n'a pas empêché la tempête de faire rage ce jour-là. Les disciples étaient confrontés à cette intempérie, mais ils n'avaient pas compris à ce moment-là que Dieu, en la personne de Jésus, était dans la barque. Et assurément, Jésus est Dieu, parce que le vent et la mer lui obéissent. Jésus voulait leur apprendre à ne pas avoir peur, à avoir confiance en lui. Même si le monde autour de nous s'effondre, nous n'avons pas de crainte, parce que Dieu est pour nous un refuge qui ne fait jamais défaut. pause. Oui, c'est ainsi que se termine le verset 4 de notre psaume. Laissons encore Dieu nous interpeller par les paroles que nous venons de lire et de méditer. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte. Je ne reprocherai à personne d'avoir des peurs, parce que j'en ai aussi. Mais Dieu nous dit encore ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Je le répète pour que vous le reteniez. Dans les versets qui suivent, nous retrouvons la même idée, la même quiétude. Et cette fois-ci, un lieu est mentionné, la ville ou bien la cité de Dieu. Plusieurs psaumes en parlent, et en réalité, une majeure partie de la Bible parle de cette cité que Dieu a choisie pour y établir sa présence. Parfois, elle est nommée Sion, parfois, elle est nommée Jérusalem. C'est là que Dieu a voulu que son temple soit construit. C'est là que Dieu a voulu que son peuple vienne à sa rencontre et l'adore. C'était en tout cas vrai pour l'Ancien Testament. Après le mugissement de la mer, nous retrouvons ici un cours d'eau tranquille, qui n'a rien de menaçant. Regardez le verset 5. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Pour beaucoup, il est évident que les psalmistes emploient une image, parce qu'il n'y a pas de fleuve en tant que tel qui traverse ou qui entoure Jérusalem. Alors qu'est-ce qui fait ici la joie du peuple qui habite cette cité? Que veut dire cette image du fleuve? Eh bien peut-être pour désigner la bénédiction de Dieu, peut-être pour désigner la faveur de Dieu. Une faveur qui reste toujours imméritée, mais le peuple se réjouit parce qu'il a la faveur de Dieu. Et c'est un délice comme ce fleuve. Le fleuve dans cette image est source de vie. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas un torrent menaçant. Et voyez au verset 6, Dieu est au milieu d'elle, au milieu de la cité, au milieu de la ville. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Notez pourquoi ici la cité ne tremble pas. Pourquoi elle n'a pas peur du danger qui la guette? Parce que Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu de son peuple. C'est ce que nous devons comprendre ici. Et si Dieu est là, les habitants de Jérusalem n'avaient rien à craindre. Une foule d'ennemis pourrait se présenter aux portes de la ville. Les psalmistes sont certains de cela. Dieu la secourt dès le point du jour. Oui, Dieu ne va pas empêcher les ennemis de venir, mais les psalmistes ont cette certitude. Dieu va les secourir. Est-ce que ça demande une confiance incroyable en Dieu? Ou est-ce que nous pouvons croire Dieu sur parole? Et de nouveau ici, ce secours de Dieu nous est rappelé au verset 6, un secours toujours présent dans la détresse. Et regardez, par contraste, l'agitation du côté des nations. Verset 7, des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Voyez la différence, Jérusalem au verset 6 est la cité qui n'est pas ébranlée. Et ici au verset 7, les nations qui s'en prennent à la cité de Dieu ne sont pas tranquilles. Où se situe la différence? Eh bien Dieu est au milieu de sa cité. Et le reste du monde, privé de sa présence et de son secours, tremble. À sa voix, la terre tremble. Aujourd'hui, nous n'habitons plus dans la cité de Dieu. Nous ne sommes pas à Jérusalem. Le Nouveau Testament nous fait désirer et espérer une cité céleste, une Jérusalem céleste, mais nous n'y sommes pas encore. Alors comment ces versets sont-ils actuels pour nous? Eh bien, Dieu n'est-il pas au milieu de nous ? Par son esprit ? N'est-ce pas Jésus qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Et ici, Jésus parlait du Saint-Esprit en parlant des fleuves d'eau vive. Or, l'Esprit Saint est en chaque croyant, nous assurant de la présence de Dieu partout où nous allons. Pas seulement lorsque nous nous réunissons, mais partout où nous allons. Bien plus, l'Église que nous sommes, en tant qu'assemblée, eh bien, forme une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 2, verset 22. L'Église, en tant qu'assemblée, est une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Donc, nous n'habitons pas une cité à proprement parler, mais là où nous nous rassemblons, Dieu est au milieu de nous. Et pour certains de nos frères et sœurs dans le monde, la menace bien réelle ressemble à ces nations agitées aux portes de la ville. Nous entendons parfois le récit de nos frères et sœurs persécutés qui ont vécu un culte perturbé par des intrusions ou interrompu par les forces de l'ordre ou par des gens du village, dans des pays où la liberté de culte n'est pas garantie. Oui, les rassemblements peuvent être perturbés, c'est vrai. Mais l'Église, la communauté des croyants, est toujours debout. Elle n'est pas ébranlée. Ne pensons pas que dans notre contexte, nous soyons préservés de toute menace. Restons vigilants. Comme l'exhorte l'apôtre Pierre, il décrit le diable comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il décrit le diable comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et je pense que personne d'entre nous ne sous-estime un lion. Mais Dieu en qui nous mettons notre confiance est au milieu de nous. Et donc nous n'avons pas à avoir peur, même face aux attaques du diable, même face à ses tentatives de nous faire douter. Au contraire, disons avec les auteurs de ce psaume, et avec le verset 8, « L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. » Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Donc si Dieu est pour nous un refuge, n'ayons pas peur. C'est la première réaction que nous pouvons avoir. Si Dieu est pour nous un refuge, n'ayons pas peur, quelle que soit la nature du danger. Si Dieu fait tout ce qu'il fait, c'est aussi bien sûr pour attirer notre attention sur lui. Et c'est là que vient notre deuxième réaction. Reconnaissons qu'il est Dieu. Oui, Dieu est un refuge, mais Dieu ne se résume pas à cette image. Au début, je vous ai présenté différentes images que Dieu utilisait pour se présenter et pour se révéler à nous. Donc, dire qu'il est un refuge, cela ne se limite pas à ça. Dieu n'est pas qu'un refuge. Dieu n'est pas un garde du corps que nous employons à notre service. Il est question dans ce psaume. Oui, il est question de sa protection, il est question du peuple de Dieu, mais surtout et avant tout, il est question de Dieu lui-même. Et à partir du verset 9, eh bien, nous avons des impératifs. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Nous avons des impératifs. Et à qui s'adressent ces impératifs ? Plusieurs réponses ont été avancées par les commentateurs. Pour les uns, ce sont les nations à qui Dieu fait entendre sa voix. Pour les autres, ce sont les membres du peuple de Dieu. Et sans doute qu'en fait, les impératifs s'adressent à toute la terre, à tout homme. Tout homme a besoin d'entendre cela. Venez contempler ce que l'Éternel a fait. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais d'abord, venez contempler ce que Dieu a fait. Face à l'agitation du monde, Dieu intervient d'une manière forte. Il est question d'actes dévastateurs qui font référence au jugement de l'Éternel. Oui, Dieu juge les nations à cause des nombreux péchés, des nombreux crimes commis sur toute la surface de la terre. contempler encore. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire cesser les combats. Et nous voyons bien dans notre monde actuel que les trêves et les cessez-le-feu ne sont que des promesses humaines, souvent de courte durée. Les puissants de ce monde jouent avec la guerre et rechignent à se mettre à la table des négociations. Ne nous faisons pas d'illusions, aucun traité de paix n'instaurera sur terre la paix pour toujours. Seul Dieu a le pouvoir de faire cesser les combats. Seul notre Dieu est un Dieu de paix. Et il n'a pas créé les hommes pour qu'ils s'entre-déchirent. Oui, un jour prochain, Dieu mettra un terme à toutes les guerres que nous connaissons encore aujourd'hui. Oui, Dieu mettra un terme à toutes les guerres. C'est prévu dans son plan. Il a prévu que ce jour puisse arriver, mais pas tout de suite. Aussi, nous lisons chez le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 2, verset 4, « Il, c'est-à-dire l'Éternel, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Nous attendons encore ce jour. Mais c'est une promesse qui nous est laissée ici. L'on n'apprendra plus à faire la guerre. Et cette paix totale, nous ne pouvons pas l'attendre des hommes, ni des puissants de ce monde. Cette paix totale, Dieu l'instaurera, pour que le monde entier sache qu'il est Dieu, seul capable de faire ce que l'homme ne réussit qu'à défaire. Venez, contemplez ce que Dieu a fait, ce qu'il fait en ce moment même. N'a-t-il pas déjà commencé à nous désarmer ? Dieu n'a-t-il pas déjà commencé à nous désarmer ? L'Église n'est-elle pas la communauté où les hommes et les femmes ont accepté de déposer les armes pour vivre en paix les uns avec les autres ? L'Église n'est-elle pas la communauté où règne Jésus, le prince de la paix ? Dieu a déjà commencé à nous désarmer. N'est-ce pas par sa mort sur la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu, donc en paix avec Dieu et les uns avec les autres? Alors oui, nous avons l'espérance que cette paix qui existe dans l'Église s'étendra sur toute la terre. Mais déjà, Dieu a commencé avec l'Église. Regardons-nous juste un instant les uns les autres. Des gens parfois... Enfin, si différents, de cultures si différentes, mais qui peuvent vivre en paix. Dieu a déjà commencé à nous désarmer. Et nous avons cette espérance que cette paix qui commence dans l'Église s'étende sur toute la terre. Parce que Dieu mettra lui-même un terme à l'histoire présente et qu'il exercera ses jugements. Venez contempler les œuvres de Dieu, mais aussi arrêtez et sachez que je suis Dieu, verset 11. Et cette fois-ci, Dieu prend la parole et il se fait entendre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Peut-être que vous connaissez ce verset. Vous le connaissez par cœur. Dieu nous dit « arrêtez ». Dans le contexte immédiat du psaume, cela signifie « cessez vos combats ». Puisque les nations étaient agitées. Cessez vos combats. Arrêtez de faire de la terre un champ de bataille. Arrêtez vos rivalités. Arrêtez vos querelles. Arrêtez de chercher à prouver à l'autre que vous êtes le plus fort ou le meilleur. Aux yeux de Dieu, tout cela est vain. Car ce qui compte, c'est que le monde sache qu'il est Dieu. Il s'agit alors de cesser de regarder à soi ou de regarder à l'autre pour regarder à lui. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Et souvent, nous lisons dans l'Ancien Testament, et particulièrement chez les prophètes, que Dieu agit pour que son peuple sache qu'il est Dieu. Et même pour que les autres nations sachent qu'il est le seul vrai Dieu. C'est dire combien Dieu tient à ce que les hommes le considèrent pour ce qu'il est vraiment. il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Dieu se préoccupe à juste titre de sa gloire. Il veut être reconnu pour qui il est. Et pas uniquement par son peuple, mais par toute la terre. Et nous lisons au verset 11, « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, entendons ce que Dieu dit ici, « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Reconnaissons une fois de plus que Dieu est au-dessus de tous, que Dieu est au-dessus même des plus puissants de ce monde. C'est lui qui domine. Dans ce monde qui est en crise permanente, en insécurité permanente, nous avons non seulement un refuge en Dieu, mais nous avons Dieu avec nous. Dieu le Créateur, le Maître de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui mérite toute adoration de la part des hommes et des femmes qu'il a créés. Ce Dieu-là, si Dieu est notre refuge, il est aussi celui devant lequel nous devons nous arrêter pour reconnaître qu'il est Dieu. À notre petite échelle, ce n'est pas la guerre qui est notre première menace, mais il se peut que nous soyons déjà engagés dans un conflit, dans un différend avec notre prochain, avec un membre de la famille, avec un collègue, peut-être avec un frère ou une sœur de l'Église. Peut-être que nous sommes déjà engagés dans un conflit. Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire qu'il veut la paix entre les hommes. Arrêtez vos combats, arrêtez vos querelles et sachez que je suis Dieu. Et le moyen de parvenir à cette paix, c'est d'abord de reconnaître qu'il est le maître et donc de se soumettre à lui. Je voudrais terminer avec le refrain de ce psaume présent au verset 8 et 12. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Chaque semaine, ici en tout cas, chaque semaine, nous célébrons que dans sa grâce et dans son amour, Dieu est bien descendu parmi les hommes, en la personne de Jésus. Nous lisons d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu qu'il a pour nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Le péché a creusé ce vide en nous, nous a séparés du Créateur. Et quand nous sommes loin de Dieu, eh bien, effectivement, nous cédons à toutes sortes de peurs, parce que ce monde qui est abîmé par le péché est réellement menaçant. Mais Jésus est précisément venu jusqu'à nous. Il a réglé une fois pour toutes le problème du péché qui nous séparait de Dieu. Et comment l'a-t-il fait? Nous l'avons chanté tout à l'heure, la croix. La croix est la preuve que nous n'avons plus à payer pour nos fautes. La croix est la preuve que Dieu peut nous pardonner entièrement. Que Jésus s'est chargé de notre culpabilité, s'est chargé de nos péchés. Il est mort à notre place. Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il nous a ouvert la voie du pardon, de la réconciliation avec Dieu, du salut. Et celles et ceux qui croient que Jésus a vraiment fait cela pour eux font partie du peuple de Dieu. Et s'ils font partie du peuple de Dieu, donc Dieu est avec eux. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons faire, cela ne change pas cette vérité que Dieu est avec nous. Et je crois que c'est très important que je puisse un peu insister là-dessus. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, nous fautons de bien des manières. Mais ça ne veut pas dire que Dieu arrête d'être avec nous. Parce que nous sommes établis dans une alliance avec lui. Et Dieu est toujours fidèle à son alliance. Et bien plus, Dieu nous a fait grâce puisque nos péchés ont été pardonnés. Oui, ne pensons pas que si je fais quelque chose de mauvais, si je n'ai pas été à la hauteur, donc Dieu arrête d'être avec moi. Non, c'est faux. C'est un mensonge. Dieu demeure toujours avec nous et toujours de notre côté. l'Église peut affirmer que Jésus, le Seigneur, est avec elle. Car lui-même a dit à ses disciples, et vous l'avez sous les yeux, Matthieu 28, verset 20, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que, comme les auteurs du psaume 46, nous avons la ferme assurance que Dieu est bien avec nous ? Nous pouvons l'affirmer, nous pouvons le croire si nous sommes bien du peuple de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui est encore un jour donné par Dieu pour que vous sachiez qu'il est Dieu, qu'il est digne de confiance. Et vous pouvez à cet instant renoncer à vos péchés, renoncer à votre train de vie sans Dieu et laisser Jésus vous sauver, lui qui a payé pour vos fautes. Dès aujourd'hui, vous pouvez faire ce pas. Autrement, vous ne pourrez pas dire que Dieu est de votre côté et qu'il est avec vous. Il vous tend la main encore ce matin pour que vous puissiez répondre à son appel. Et si vous avez déjà placé votre confiance en Jésus-Christ, sachez, et je le redis encore une fois, que Dieu est avec vous, qu'il est de votre côté, que vous avez sa faveur. Bien sûr, une faveur imméritée, mais vous avez sa faveur. Dans notre vie de tous les jours, Dieu est avec nous. La rentrée de demain et les jours qui suivent n'y changeront rien à ce que je viens d'énoncer. C'est pourquoi je peux dire je ne craindrai rien, même au milieu des épreuves et de toutes les catastrophes qui peuvent avoir lieu sur terre. Dieu est avec nous. L'alliance que Dieu a établie avec nous est une alliance éternelle. Elle ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et au dernier jour, lors du jugement dernier, quand tous les peuples devront reconnaître que Jésus est Seigneur, en ce qui concerne celles et ceux qui ont placé leur foi en Christ, ils seront sauvés, même si notre vie aura été bien difficile sur cette terre. Dans ce monde, nous pouvons nous sentir bien vulnérables. Mais là où nous sommes le plus en sécurité, c'est encore auprès de Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance, parce que nous savons qu'il est Dieu, qu'il maîtrise tout et qu'il est avec nous. Alors oui, si Dieu est notre refuge, si Dieu est avec nous, n'ayons pas peur et reconnaissons qu'il est Dieu. C'est l'encouragement que nous tirons de ce psaume ce matin. Au milieu de tout ce que nous pouvons vivre de difficile et tout ce que nous serons amenés à vivre de difficile, Dieu est là. Il est le secours toujours, toujours présent dans la détresse. Si vous vous sentez en détresse, sachez qu'il est le secours toujours présent. Ça m'a tellement aidé de pouvoir revenir sur cette vérité-là. Dieu ne fait pas défaut. Il est toujours, toujours, constamment présent dans la détresse si vous vous réfugiez auprès de lui. Il n'est pas abonné absent. Il est là. Et en pensant à Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, nous pouvons démarrer cette semaine avec une véritable assurance. Dieu est réellement avec nous. Et cela est vrai tous les jours. Alors après tout ça, avons-nous vraiment quelque chose à craindre ? Après tout ce que je viens d'énoncer, reste-t-il encore quelque chose qui nous fasse peur? Je vous invite à prier avec moi. Ta parole est certaine, elle est la vérité. Nous le croyons, parce que tu le dis toi-même. Et nous voulons te remercier pour ce psaume où tu nous rappelles que tu es ce refuge, cet appui, ce secours toujours présent dans la détresse. Et d'autant plus, Seigneur, eh bien, étant en Christ, nous avons cette ferme assurance que non seulement rien ne peut nous séparer de ton amour, mais que oui, tous les jours de notre vie, tu seras là. Merci de nous donner une telle parole d'assurance dans un monde qui nous fait tellement peur, où les circonstances sont menaçantes, où le contexte du monde qui nous entoure n'est pas optimiste. Mais merci Seigneur, parce que tu nous dis encore de te faire confiance. Et pour cette période de rentrée, pour les jours qui viennent, Seigneur, nous voulons effectivement t'accorder toute notre confiance à toi qui n'as pas hésité à envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix, pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être sauvés. Oui, nous te faisons confiance parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Et nous te bénissons, Seigneur, encore, pour cette parole que tu nous adresses ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.